Bonsoir à tous ceux qui sont venus et merci d'être venus pour assister à cette rencontre avec Philippe Lançon. Philippe Lançon est un écrivain et un écrivain qui raconte une expérience peu commune puisqu'il a donc, c'est un rescapé d'un attentat et il ne raconte pas l'attentat, il ne raconte pas ce qui s'est produit simplement ce jour-là et qui est resté dans une mémoire collective qui a frappé tous les Français, puisqu'il s'agit de l'attentat de Charlie Hebdo. Il raconte également une expérience personnelle extrêmement douloureuse, extrêmement poignante, qui renvoie dans un va-et-vient perpétuel, temporel, entre ce qu'il a vécu, les réminiscences d'une vie d'avant et la reconstruction d'une vie d'après. Ce livre s'appelle « Le Lambeau ». C'est un livre magnifique, qui est un livre que manifestement qui a remporté deux adhésions, ce qui est assez rare, c'est-à-dire l'adhésion critique d'une part, et d'autre part l'adhésion du grand public. Et c'est de cela dont nous allons parler, à la fois du livre, à la fois de comment Philippe l'a écrit et comment aujourd'hui il le vit. Donc merci Philippe d'être avec nous.
Merci, bonsoir à tous.
Donc Philippe, comment ça va ?
Bien. Donc voilà, pour parler de la vie quotidienne, certains d'entre vous doivent être des patients. Donc maintenant, je suis revenu à l'état de patient habituel, tout en étant comme les capitaines de marine marchande là au long cours. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais à l'hôpital. Cette année, je suis beaucoup à Rome, essentiellement. Et donc, je reviens régulièrement à Paris, c'est-à-dire en ce moment toutes les semaines, pour la suite de mon parcours hospitalier, qui est une longue réparation. Et si je vous dis ça, c'est pour vous montrer comment, certains d'entre vous doivent le savoir, c'est véritablement la vie quotidienne, c'est la vie parallèle, en fait, que peut avoir un patient comme je le suis, c'est-à-dire qu'il a une vie entre guillemets normale, affective, plus ou moins professionnelle, il voit ses amis éventuellement, même s'il fatigue un peu plus vite que les autres. Et par ailleurs, il a cette vie étrange qui le reconduit, qui me reconduit très régulièrement, méthodiquement, à l'hôpital. Qui est comme une seconde maison, puisque je m'y suis fait. C'est un endroit qui m'a sauvé, ou en tout cas dont je pense qu'il m'a sauvé. Et donc, j'y retourne toujours avec une certaine gratitude. Et je ne dirais pas comme le fantôme de l'opéra, mais vous voyez, je m'y promène une fois fait ce qu'il y a à faire, en tout cas quand c'est pas un bloc lourd, dans les couloirs pour éventuellement, je reste pas longtemps, mais pour saluer les gens que je connais, que je croise à droite à gauche, qui vont absolument depuis les personnes qui sont à l'accueil, en passant par des aides-soignantes, etc. Et on discute comme ça. Pour vous dire que c'est donc une véritable, une vie parallèle que je mène, même si elle va progressivement s'amenuisant. Voilà.
Vous avez dit réparation. C'est un terme que vous préférez, reconstruction ?
Oui, il y a des termes. Alors, à vrai dire, je m'y perds un peu parce qu'il y a les termes chirurgicaux, les termes employés par ceux qui ne sont pas chirurgiens et qui sont toujours un peu teintés de psychologie, vous savez. Donc, moi, j'aime bien le terme réparation parce que finalement, il me rappelle très prosaïquement que l'hôpital, c'est aussi un atelier réparation, comme un garage, quoi. Où on va, et c'est bien de temps en temps, en tout cas pour moi, de dépsychologiser les inquiétudes, les douleurs éventuellement que je peux avoir. C'est-à-dire que quand j'arrive en ayant la sensation d'être dans cet atelier, comme une sorte de voiture, qui a des boulons à réparer, des choses à améliorer, etc. Ça me tranquillise. Vous voyez, une voiture qui aurait un GPS, puisque je pose des questions. Et j'aime bien comprendre aussi toujours, encore hier, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Non, pas du tout par méfiance, parce que j'ai eu la chance d'avoir, je crois, de très bons chirurgiens et donc d'avoir confiance en eux. Mais parce que simplement, je crois, et c'est mon métier qui est aussi celui d'Yves qui m'y a conduit, je suis curieux. Un de ceux qui m'a formé dans le métier de journaliste au départ m'avait dit on a un métier merveilleux, notre profession, c'est d'être curieux. Et il se trouve que j'ai vécu quelque chose là qui a retourné la curiosité sur moi-même, sur ce que je vivais, mais comme si j'étais un autre.
Alors on va parler du livre. Votre livre commence non pas par l'attentat, comme on aurait pu l'imaginer. Pourquoi vous n'avez pas commencé par l'attentat ?
Je n'ai pas commencé par l'attentat parce que j'aurais trouvé ça spectaculaire et donc déplacé. C'est-à-dire, ce que je voulais montrer, c'était comment cet attentat avait modifié la vie d'un homme. D'où la nécessité de parler de ma vie. Cet homme, c'était moi, et cet attentat, c'était celui de Charlie. Et donc, je pensais, et je pense toujours, bien sûr, qu'il fallait commencer par quasiment l'ordinaire de la vie tel qu'il était à la veille de cet attentat. Il se trouve que la veille, pour ceux qui l'ont lu, c'est le premier chapitre, j'étais au théâtre, j'étais allé voir La Nuit des Rois de Shakespeare, c'était un hasard. J'aurais pu, bien sûr, commencer l'avant-veille, ou 3 jours plus tôt, ou 1 mois plus tôt, vous voyez. Il se trouve que il m'a semblé, et évidemment c'était une sensation plus qu'une interprétation rétrospective, que finalement, à partir du moment de l'attentat, j'entrais dans une horrible pièce de théâtre, où les rôles étaient distribués d'abord avec atrocité sur la scène du massacre, avec mes amis et les tueurs, et ensuite à l'hôpital où mes chambres, puisqu'il y en a eu plusieurs, étaient en partie des scènes de théâtre au sens où les gens entraient et sortaient, vous savez, comme ils le font au théâtre, les acteurs en coulisses. Et c'était tellement vrai, vous voyez, ça peut vous paraître artificiel, mais ça ne l'était pas du tout, parce que moi, ma vie était à ce moment-là, ceux qui ont été patients le savent, réduite à cet espace de la chambre. Et les gens, ils entraient, et c'était comme s'ils avaient revêtu un costume qui n'était plus celui que les acteurs ont quand ils sont dehors, c'est-à-dire ils entraient sur scène, dans cette chambre, et leur vie était concentrée sur cette scène. Et quand ils sortaient de la chambre, ils repartaient vers un monde qui était le monde dans lequel ils vivaient, avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues, leur salle de sport, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette vie, je ne la connaissais plus. C'était plus du tout la mienne. Donc, comme vous voyez, un spectateur qui participe, donc par exemple à La Nuit des Rois, il voit des personnages qui sont là. Il se trouve que là, c'était évidemment mes amis. Et quand ils sortent, il ne sait pas du tout ce que deviennent les acteurs quand ils sont en dehors de la scène. Là, je ne savais plus du tout. Et il faut bien dire que j'avais même, en tout cas dans la période de très grande intensité chirurgicale qui était les premiers mois, j'avais même beaucoup de mal à m'intéresser à ce que pouvait être leur vie en dehors du moment où ils étaient avec moi, parce que j'avais du mal à l'imaginer. Parce que je pense que toute mon imagination, comme mon énergie, était mobilisée par la réparation, la reconstruction, et comprendre ce qu'il m'arrivait, ce qui m'était arrivé, l'endroit d'où je revenais, apprivoiser cet événement qu'était l'attentat, qu'est-ce que j'avais vécu exactement, apprivoiser aussi mes compagnons morts, qui me rendaient quand même beaucoup visite dans ma tête, dans les premières semaines en particulier, qui étaient presque plus proches de moi, et pas presque, ils étaient plus proches de moi que ne l'étaient les vivants. Vous voyez, donc il fallait du temps pour sortir, et donc je pense que la scène de théâtre c'était la réalité, et en même temps c'était une métaphore. Comme souvent, la métaphore ne s'oppose pas à la réalité, elle l'interprète, elle la précise, en fait elle donne plus de sens à la vie, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense enfin que ça me permettait aussi de mettre un peu à distance tout ce que je vivais. Vous voyez, comme si aussi c'était une représentation. Parce que quand même, j'en bavais des ronds de chapeau. Hein. Quand on descend au bloc, tous les 3-4 jours, ce qui était le cas au départ, avec des anesthésies générales assez longues, le corps, il en prend un coup. Hein. Donc, j'ai toujours un tout petit peu de mal à boire du vin de Bordeaux, vous voyez, parce que le foie, j'avais un foie en très bon état. Il aime pas ces anesthésies perpétuelles. Enfin, vous voyez, donc voilà, c'était compliqué. Et la mise à distance est indispensable.
Vous parlez de mise à distance. Il y a autre chose qu'il faut préciser. Enfin, ceux qui ont lu le livre le savent, c'est que pendant très longtemps, dans la première période de votre hospitalisation et des interventions successives que vous avez eues, vous êtes muet. Alors, ce paradoxe fait qu'il y a certaines scènes qui sont étranges, mais très drôles, finalement, ce qui, dans un livre finalement aussi dramatique, est absolument exceptionnel, mais surtout qui produit un effet de distance terrible et dont vous arrivez à rendre compte. Mais comment vous viviez, vous, cette vision de muet, si l'on...
Bah, ça dépendait parfois comme une farce, parce que il faut dire que quand j'avais un ami ou une amie qui débarquait dans ma chambre et qui me posait des questions ou qui me parlait, et en face de lui il avait donc quelqu'un qui prenait son ardoise ou son cahier et puis qui répondait, dont je répondais effectivement très lentement, même si j'étais devenu assez habile, j'étais devenu bavard par écrit, hein, en somme. Et donc, j'étais vraiment capable d'écrire assez vite. Mais enfin, bon, vous voyez, c'est très, très bizarre. Hein. Ça, je l'écris d'ailleurs, je crois, dans le livre. Ça perturbe énormément le dialogue. Si vous parlez à quelqu'un, vous avez l'habitude qu'il vous écoute, puis il vous répond. Enfin, il vous écoute peut-être. En tout cas, vous voyez. Et donc là, d'abord, j'étais quand même très en position d'écoute, comme je ne l'ai sans doute jamais été, parce que j'étais muet. Et ensuite, je broutais littéralement mes réponses avant de les mettre par écrit. Et donc, s'installait un espèce de grand silence dans la chambre. Parce que, aussi vite qu'on aille par écrit, on répond évidemment beaucoup moins vite qu'à l'oral. Imaginez que Yves, là, me pose des questions et que je sois obligé de répondre par écrit. Ça serait très, très lent et évidemment très fastidieux pour vous. Donc, vous voyez, il y avait des effets comiques en fonction aussi. Des situations. Vous voyez, il y avait des moments où je parlais beaucoup aussi avec... Enfin, je parlais justement, j'échangeais avec les policiers qui m'accompagnaient dans le couloir quand je faisais mes longueurs, parce que j'essayais de marcher au maximum. Et on m'avait enlevé un péroné assez vite et pour refaire la mâchoire. Et donc, il fallait réapprendre à marcher. Et ceux à qui... ont eu des problèmes avec un péroné, le savent, il faut remarcher très vite, talon pointe, pour surtout... Donc il faut affronter la douleur, pour le dire clairement. Et donc beaucoup, beaucoup de longueurs. Donc je faisais mes longueurs de couloir, et j'avais deux policiers, vraiment en uniforme et en armes, qui me suivaient, qui n'étaient jamais les mêmes. Hein. Il y avait des tours. Évidemment, moi, je parlais avec eux. Donc je commençais à apprendre, à bien connaître la vie de certains d'entre eux. Et je leur posais des questions, et j'ai toujours les carnets sur lesquels je leur posais les questions, sauf que je ne sais même plus forcément maintenant à qui je les adressais, vous voyez. Et donc, par contre, je notais pas les réponses. Donc, j'étais une sorte de journaliste à l'envers. Le journaliste, c'est quand même quelqu'un qui pose des questions à l'oral et qui note les réponses par écrit. Voilà, je faisais le contraire. Donc, c'était quand même... Et puis après, donc c'était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et dès que j'ai pu, j'ai commencé à sortir de ma chambre, puis du service, pour aller dehors. Et c'est une ville, hein, la Salpêtrière, pour ceux qui connaissent cet hôpital, à faire le tour de ma ville, à en visiter les recoins. D'abord, ça me faisait marcher. Ensuite, de toute façon, le service m'incitait le plus possible à sortir. Et c'est un endroit tout à fait extraordinaire, puisqu'il y a quand même 3 siècles et demi de vie et d'architecture là-dedans. Puisque ça a été construit sous Louis XIV. Enfin, et donc, après, j'étais devenu le guide de mes policiers. Mais un guide muet, très souvent. Donc, je leur faisais des... Voilà, là, vous voyez, c'est la chapelle. Elle a été construite à telle époque, en 1600 et quelques. Nous allons rentrer. Alors, ils ne pouvaient pas rentrer dans la chapelle parce qu'ils avaient quand même des bérettas. Et, donc, c'est quand même une chapelle... Enfin, très, très grande. Hein, c'est une très, très grande église, très vide, assez spectaculaire, ces grandes églises vides, vous voyez. Et donc, il fallait... ils n'avaient pas le droit de rentrer, mais alors...
Ils sont rentrés quand même... d'une façon absolument stupéfiante, dans le bloc opératoire.
Oui, ils sont rentrés dans le bloc opératoire, au début en tout cas. Pas absolument, vous voyez, pas dans le bloc, mais dans l'antichambre du bloc. Le bloc, il est quand même en milieu stérile, donc c'est quand même compliqué. Certes, il fallait qu'il me protège, mais il ne fallait pas qu'il me tue. Donc, mais en revanche, ils étaient, je me souviens très bien de cette vision, donc que je décris, où moi j'étais sur mon brancard, et j'attendais de passer au bloc, et je les voyais mettre leurs surchaussures, leurs charlottes, mais sans quitter leurs uniformes et les armes à la main. Donc ils étaient très très engoncés, comme des espèces de cosmonautes maladroits. Et vous aurez compris que j'avais beaucoup de sympathie aussi pour eux. Aussi parce que si on parle des policiers, c'était des gens souvent jeunes et qui venaient de partout. Puisque c'est, vous savez, c'est des unités. Donc, ils venaient beaucoup de provinces, de banlieues. Il y avait des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes. Il y avait tout. Il y avait la France, quoi, qui était là. Je suis sûr qu'il y a eu des gens de Bordeaux. Il y en a eu de Lille. Enfin, vous voyez. Et donc, moi, j'étais le mince fil dans cet endroit entre les uns et les autres. Et vraiment, j'avais l'impression d'être veillé par, en quelque sorte, des individus, hein, des hommes et des femmes, parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, mais qui étaient des échantillons de la France entière. Et pour moi, c'était très important à ce moment-là, puisque cet attentat avait quand même... un attentat, c'est quelque chose qui déchire un tissu. C'est un acte extrêmement violent et il déchire un tissu, non seulement il tue les hommes, mais un tissu social entre des gens. C'est fait pour ça, d'ailleurs, je pense, fondamentalement. Et donc, toute cette histoire, c'est quand on dit... Alors, c'est l'histoire d'un... J'en avais pas conscience, mais maintenant, je m'en aperçois il s'agissait de retisser quelque chose. Il y avait plusieurs cercles. Il y avait les soignants, qui étaient eux-mêmes très traumatisés par cette histoire. Évidemment la famille, ma famille, les amis, et puis les policiers, et puis vous voyez, il y avait il y avait tout le monde qui était là, à travers mon modeste cas, hein, qui était j'étais indécente. Il y avait d'autres victimes à qui il a dû arriver la même chose. Il se trouve que c'est moi qui l'ai raconté, voilà. Et donc c'était très important de restituer non seulement l'expérience que je vivais, mais la vie des autres autour de moi, telle que je l'apercevais. Toute cette vie qui était là, et qui petit à petit... vous savez, je crois qu'il y a des petits étards comme ça qu'on met sur des plaies et qui petit à petit nettoient. Des petits poissons. Et qui referment la... Ouais, il y avait tout un tas de petits poissons qui étaient des hommes et des humains et qui... refaisait pas, là je parle pas de mes plaies, mais de la plaie que l'attentat avait creusée. Voilà.
Il me vient une question qui m'était absolument pas apparue, ni à la lecture du livre, ni lors des différentes interviews qu'on a pu faire, déjà réaliser l'un avec l'autre, mais est-ce que la proximité que vous avez eue avec les policiers, non seulement vous, mais également les autres rescapés, parce qu'il y a eu d'autres rescapés dans l'attentat, a changé la vision qu'avait Charlie de la police?
Oui, d'ailleurs, moi, je l'ai écrit dans un... Oui, et je sais que j'en ai parlé avec d'autres blessés de...
Pardon, Philippe, il faut que je précise quand même que, pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous êtes d'abord journaliste à Libération.
Oui.
Ensuite, vous étiez chroniqueur à Charlie Hebdo, et que vous, quoique chroniqueur à Charlie Hebdo, vous ne participiez pas du dogmatisme, si vous me permettez le terme, de Charlie d'avant.
Non, j'étais un peu un... Enfin, depuis longtemps, puisque j'y suis depuis 2003. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu à part dans ce journal, mais en fait, où il y a beaucoup de gens à part, en vérité. Enfin, c'est-à-dire, vous voyez, il y a l'esprit Charlie tel que vous pouvez l'imaginer, que vous aimez ou pas, c'est une chose. Et c'est vrai que ça n'a jamais été tout à fait mon style. Mais précisément, dans l'esprit Charlie, il y avait la possibilité d'accueillir des gens comme moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que l'idée qu'il y avait dans les journaux où moi j'ai travaillé, Libération et Charlie, qui sont des journaux qui étaient très très mal en point, et l'un l'est toujours au moment où l'attentat est arrivé, puisque Charlie était en train de mourir quand même. C'était des journaux où le maître mot, en tout cas pour moi, c'était la liberté. C'est-à-dire la liberté de, en particulier pour les journalistes ou les écrivains qui y intervenaient, de ne pas être d'accord entre eux. Et nous n'étions pas et ne sommes toujours pas d'accord entre eux, entre nous. Et maintenant, pour en revenir à la question que Yves posait, oui, bien sûr que ça a changé, parce qu'il y avait un dogmatisme antimilitariste. Il y avait des fondements de ce journal qui remontaient aux années 60, 70, etc. Et contre l'autorité, donc les policiers incarnent l'autorité. Enfin, vous voyez, enfin, des choses que vous connaissez très bien. Et donc, évidemment, on s'est retrouvé dans une... Vous voyez, comme la vie est curieuse, hein, parfois, et tourne un peu à la farce aussi, même noire, on s'est retrouvé à, non seulement à dépendre, mais à être très lié quotidiennement pour certains d'entre nous, effectivement, à des policiers auxquels on s'est attaché. Et c'était déjà le cas avant l'attentat, puisque Charb, qui a été tué dans l'attentat, était protégé par un policier qui était un homme tout à fait remarquable, Franck Brinsolaro, qui a été tué le jour de l'attentat. Et c'est même la dernière personne que j'ai vue avant l'arrivée des tueurs. Donc, que j'ai vu dégainer, malheureusement, trop tard. Et puis, c'était très compliqué, quoi. Mais c'est une vision que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Et je connaissais bien Franck. Franck, il assistait aux conférences de rédaction où se disait toutes sortes de choses sur un ton parfois homérique. Et il avait toujours un petit sourire calme et silencieux, parce qu'il était quand même là comme garde du corps, donc un peu à distance, vous voyez. Et effectivement, Charb était très attaché à lui. Je crois que Chris, qui est le directeur actuel et qui est protégé, est attaché à ses... Alors moi, je n'ai plus de garde du corps depuis que je suis sorti de l'hôpital. Mais évidemment, je reste... d'abord très reconnaissant au fait qu'ils aient veillé sur moi comme ils l'ont fait. C'était leur mission, certes, mais enfin, voilà. Et ça peut cohabiter, évidemment, avec des idées que je peux avoir politiques ou autres. Mais en tout cas, je donne souvent maintenant, si ce n'était pas le cas avant, ce que je ne sais plus, le primat à l'expérience directe avec les gens que je fréquente. Donc je n'ai absolument plus aucun a priori là-dessus.
Mais il faut ajouter que votre livre, en dehors du de la trame narrative qui est quand même cette expérience absolument bouleversante d'un mois et demi de ce que j'appelle moi reconstruction et que vous appelez réparation, est également parsemé de portraits magnifiques. Alors vous avez eu toujours du talent dans vos portraits, dans ce que vous avez pu faire à Libération. Vous avez pratiquement inauguré vous-même les portraits de dernière page, vous faisiez partie des premiers qui les faisaient, mais il y a des...
Ça ne nous rajeunit pas.
Comment ?
Ça ne nous rajeunit pas, ouais,
non, mais c'est... Ouais. Mais il y a des portraits bouleversants, à commencer par votre frère. Et on dirait que votre frère... On dirait que vous redécouvrez votre frère et que vous le comprenez sans qu'il ne vous parle et sans que vous parliez.
Oui, alors, bon, pour ceux qui ont lu le livre, et donc pour les autres aussi, mon frère a été effectivement extrêmement présent. Il a 5 ans et demi de moins que moi.
Pardon,
donc, c'est mon frère cadet. C'est votre frère cadet. Et je n'en ai pas d'autres, et donc il n'en a pas d'autres non plus. Et évidemment, il se trouve que je pense que tout a été déterminé par le fait que quand je me suis réveillé après la première opération, donc je suis arrivé en urgence à la Salpêtrière, et je me suis réveillé dans la nuit en salle de réveil, et c'était lui qui était là. et pas mes parents, parce que il avait estimé, à mon avis, à raison, qu'ils étaient âgés et que c'était pas la peine qu'ils attendent jusqu'à on ne savait quelle heure dans la nuit, dans cet endroit qui est quand même assez sinistre, qui est la salle de réveil des urgences de Gaston Cordier à la Salpêtrière. Et j'ai ouvert les yeux et c'était lui qui était là. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est que tout de suite, c'est que j'étais non seulement vivant, mais lucide. Donc, j'avais pas perdu la tête. Donc, un, il avait toujours son frère, son seul frère. Et deux, il avait son frère qui n'était pas devenu un handicapé grave ou quelqu'un qui avait plus de cervelle, parce que vous voyez, ou qui. Et ça a été clair, puisque j'ai demandé immédiatement un cahier pour pouvoir lui écrire un mot. Et donc, je crois que l'un des premiers mots que je lui ai écrit, c'était il faut aller chercher ma bicyclette qui devait rester devant Charlie. Parce que ça, on pourrait en parler, mais c'est le retour, je vais parler comme les gauchistes, là, le retour du petit bourgeois dans la conscience du patient quasiment subclaquant. Et donc, qui je m'attachais à des choses très précises, de cet ordre-là. Et donc, il était à la fois effaré et en même temps très soulagé, bien sûr. Et je pense qu'il y a eu comme un effet de... Finalement, on était assez proches, mais en même temps, on a des vies très différentes et on n'est pas dans les mêmes milieux, parce que là, quand même, vous savez, le milieu professionnel dans lequel on travaille, ça compte dans une vie. Il y a la famille et puis il y a le... Et donc, on n'était pas du tout dans les mêmes milieux, même si on fait beaucoup de choses ensemble. Et là, on s'est retrouvés quasiment en état de jumeaux. Parce que, tout simplement, ça avait failli finir là. Et qu'à ce moment-là, je pense qu'on se dit tout ce qu'on ne s'était pas dit. Et après, il s'est passé, pour finir avec ta question, qu'on s'est retrouvés, non pas dans un film psychologique, mais dans un film d'action. C'est-à-dire que le monde de l'hôpital... de la grande chirurgie intense comme ça, c'est un monde d'action pure. Il se passe toujours le bloc, l'attente du bloc, les souffrances, l'appel des infirmières, les problèmes à régler, les visites à régler. Donc j'étais très protégé. Donc l'agenda des gens qui peuvent venir me rendre visite, à quelle heure, régler ça avec les policiers. Moi, je ne pouvais pas parler et j'étais quand même dans un état... très, quand j'étais pas au bloc, très fatigué. Et donc mon frère est devenu non seulement était devenu mon jumeau, mais il est devenu mon intendant. Et donc en fait, effectivement, nous n'avons pas eu besoin de nous parler parce que comme dans un film d'action, comme des sortes de cow-boys dans un western, la question c'était d'agir. Et notre relation s'est intensifié, elle est devenue très comme un muscle très tendu sur l'action et l'organisation de la vie dans ces chambres d'hôpital, voilà. Et c'est comme ça, beaucoup plus d'ailleurs que par... Il pouvait rester dans ma chambre, parfois il y a dormi, et il dirige une entreprise, une petite entreprise qu'il a créée, donc il avait, comme beaucoup de chefs de PME, beaucoup de travail. Il l'a mise en danger d'ailleurs à cause de ça, et il travaillait souvent dans ma chambre. Vous voyez, d'abord j'avais du mal à parler, donc je pouvais pas, et puis bon, voilà. Et donc moi j'étais quand même parfois vraiment, enfin très souvent même en état très très difficile. Et il était là à côté et ça me rassurait beaucoup. Il était avec son ordinateur et lui il travaillait, il réglait ses problèmes, il envoyait ses mails, il avait acheté une petite borne orange parce que la wifi de l'hôpital marchait horriblement mal. Et et le voir lui travailler. Et du coup j'ai des amis aussi qui ont quelques amis, vraiment un tout petit cercle, qui ont dormi de temps en temps à l'hôpital, et c'était pareil, ils restaient la nuit, ils travaillaient. Je me souviens d'une amie qui, elle, à ce moment-là, elle faisait beaucoup, beaucoup d'anglais, qui est journaliste aussi. Et elle lisait tout le temps des articles des articles des journaux américains, etc. Et de temps en temps, elle relevait la tête. Elle me disait, là, j'ai lu un article intéressant. Si tu as deux minutes... Alors, si j'arrivais à me concentrer, j'essayais de lire pendant 2-3 minutes. Mais j'avais du mal à lire aussi, parce que je pense que les médicaments, plus le choc, faisaient que pendant plusieurs semaines, Je voyais au bout de quelques minutes, la vue se troublait. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes de concentration. Mais vous voyez, c'était comme ça.
Il y a deux autres personnages que j'aimerais qu'on puisse évoquer pendant le temps de parole qui nous reste. C'est deux personnages essentiels. Il y en a un qui est absolument stupéfiant pour la raison qui l'amène dans votre récit, c'est votre grand-mère, dont vous arrivez à percevoir qu'elle a eu il y a très longtemps un accident comparable au vôtre.
C'est-à-dire, je m'en souviens parce que je le savais, mais je m'en suis à un moment donné. Mais en fait, vous savez, il y a un poème de Raymond Queneau qui s'appelle Les vivants et les morts. Je me souviens plus, j'ai des poèmes de mais les vivants et les morts ont de longues oreilles. Ça commence comme ça. Et en fait, j'ai quand même vraiment vécu avec les vivants et les morts, peut-être comme certains d'entre vous. Hein, on vit toujours avec nos morts. Mais là, ils étaient particulièrement présents. Et parmi les morts présents, il y avait donc évidemment ceux de Charlie. Et il y avait mes trois grands-mères, parce qu'effectivement, j'avais trois grands-mères. C'est-à-dire, j'ai eu deux grands-mères, évidemment maternelles et paternelles, plus une arrière-grand-mère qui avait été la seconde femme de mon arrière-grand-père, mais beaucoup plus jeune, et donc qui avait l'âge de mes autres grands-mères, et qui a été vraiment une troisième grand-mère, sans que je donne une hiérarchie entre les trois. Et j'étais très attaché, pour des raisons différentes, à ces trois grands-mères. Et donc, effectivement, elles m'ont énormément rendu visite quand j'étais à l'hôpital. Elle me replongeait évidemment énormément dans mon enfance. À un moment où j'avais le sentiment que ma vie d'avant n'existait, à la fois j'en avais le souvenir et en même temps je ne la sentais plus. Il y avait quelque chose qui était coupé. Et en fait, je pense que ces grand-mères qui sont toutes mortes. Hein. En plus, elles sont mortes, il y a longtemps quand même. M'ont aidé en fait bizarrement, c'est ces grand-mères mortes qui m'ont aussi ramené vers les vivants à leur façon. Et donc, pour parler de cette grand-mère qui était ma grand-mère paternelle, elle a eu un accident de voiture pendant la guerre en 42, je crois que c'était en 42. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a c'était d'ailleurs pas très très loin d'ici, c'était entre Pau et Tarbes. Et elle allait voir mon grand-père qui partait à la guerre. Donc c'était pas en 42, c'était en 40. Et c'est au retour de l'avoir vu qu'elle a eu cet accident. Il y avait un ami qui l'avait accompagné. Et donc après, lui, il a été fait prisonnier sur la Loire. Et donc il a disparu du paysage français et familial pendant 5 ans. Certains d'entre vous doivent savoir ça. J'ai des photos de moi. Je ne l'ai pas connu. Il est mort avant ma naissance, mon grand-père. Et quand je regarde des photos de lui à son retour des camps de prisonniers, il était officier. Donc, c'était des camps plutôt doux par rapport aux camps de concentration, évidemment. Ben, j'ai l'impression que... J'ai découvert ces photos quand j'avais 30 ans. Et j'avais l'impression que... Lui, non, quand je les regarde maintenant, il avait 39 ans quand il est rentré. Et j'ai l'impression qu'il est il est mon père, tellement il a l'air usé. Et d'ailleurs, il est mort pas si longtemps après. Et bref, elle a eu cet accident de voiture absolument terrible. Ils sont rentrés dans un camion. Et elle est passée par le pare-brise et elle est passée dans le camion, sous le camion. Et mon père et ma tante étaient à bord. Ils étaient derrière, ils étaient petits. Et les secours, c'est pas les secours à l'époque, hein, les gens qui passaient sont arrêtés sur la route. Et ils ont dit, on va vous amener. Et le conducteur, l'ami de la famille, était inconscient, il était en très mauvais état. Et c'est mon père qui a dit, mais il y a maman qui est en dessous. Et donc ils sont allés la repêcher et ils l'ont donnée pour morte. Et elle est arrivée, je crois, à l'hôpital de Pau, qui était là où elle était, c'était des religieuses. Donc vous voyez, on est dans un film de Clouseau, quoi. Enfin, c'est la guerre, c'est l'hiver. C'était l'été puisque c'était. Non, il est parti un peu plus tard. Donc c'était, il faisait froid, je crois. Et elle a eu, en fait, elle a eu le visage totalement détruit. Et ça m'a évidemment beaucoup frappé parce que J'avais beaucoup demandé, bien des années plus tôt, à mon père de me raconter cette histoire. Et vous voyez, vous pouvez le comprendre, je pense, elle m'a servi un peu de guide silencieux parce que elle ne s'est jamais plainte de rien. Or, en fait, elle a souffert la mort parce que la chirurgie à cette époque-là, et elle est tombée, je crois, sur d'assez bons chirurgiens, n'était évidemment pas celle dont j'ai bénéficié. Je sais qu'elle avait une plaque à l'intérieur, elle a eu des migraines épouvantables toute sa vie, enfin, et elle avait un visage effectivement terriblement déformé, mais moi je l'ai toujours vu comme ça, et puis quand on est enfant, on prend la vie et les gens comme ils sont, on ne se pose pas véritablement la question de la norme, enfin vous voyez, c'est les adultes après qui vous fixent la norme, mais, et donc je restais avec ça, et comme dans ma chambre d'hôpital, pour finir, j'étais de nouveau un enfant, par certains côtés, je retrouvais avec cette grand-mère, entre autres, l'accès direct que je pense j'avais eu quand j'étais enfant avec elle.
Et l'autre personne dont j'aimerais que vous parliez un peu, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, que vous avez découvert malheureusement en arrivant à l'hôpital, qui est Chloé, qui est votre chirurgienne, et qui est un personnage extrêmement étrange, enfin étrange qu'on arrive à percevoir, mais qui est à la fois un personnage solaire, et un personnage martial, et qui a été pour vous, finalement, au-delà des femmes qui sont venues vous voir, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui sont venues vous voir sur votre lit de souffrance, votre ancienne femme, votre fiancée de l'époque, etc., etc. Mais ça a été la femme qui a le plus compté pour vous.
Oui, parce que c'est elle qui a reconstruit mon visage, et qui était à ce moment-là la personne à qui je pouvais... à qui je pouvais le faire le plus confiance. C'est-à-dire que je raconte d'ailleurs dans le livre que quand elle arrivait dans ma chambre, en particulier le soir, en fin de journée, elle ayant fait probablement ses blocs et ses choses dans la journée, et qu'elle venait voir où j'en étais, me parler de la suite des opérations, il pouvait y avoir des gens, dont mes parents, mes vieux parents ou d'autres, tout le monde sortait. De toute façon, elle virait tout le monde. Et... elle commençait à me parler, parfois ça pouvait durer 45 minutes, hein, et on parlait pas que de chirurgie, on parlait de nous aussi, alors si j'étais sans parler, voilà. Et en fait, le temps et les autres disparaissaient, parce que pour moi, c'était la personne qui était devenue prépondérante. Alors effectivement, elle a un caractère, c'est une très jolie femme d'une quarantaine d'années, comme vous pouvez imaginer, se faire sa place dans le milieu de la chirurgie quand on est une femme, surtout au niveau où elle est, c'est pas forcément très simple. Ça a été de toute façon très vite, très jeune, une brillante chirurgienne, ça c'est sûr. Elle est implacable aussi avec ses étudiants et ses élèves parce qu'en fait elle supporte absolument pas ni la médiocrité, ni l'échec, ni la négligence. Et vraiment de manière... et en fait, moi, ça m'a servi aussi parce que il fallait que je sois un peu à la hauteur comme patient. En tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je le sois. Et donc, je l'ai amené sur mon terrain, qui est quand même fondamentalement, et c'est important, de le dire, la littérature et l'écriture. Et donc, moi, son travail, c'est la chirurgie, et moi, c'est l'écriture. Et ces deux travaux, très vite, sont allés de pair. C'est-à-dire, moi, ce que je sais faire, c'est écrire, si je sais faire quelque chose. Et elle, penser scientifiquement la reconstruction des tissus. Tout le monde me l'avait dit, et c'est vrai, elle a des doigts de fée, c'est-à-dire qu'en plus, c'est une as de la cicatrice. Alors, en maxillofacial, les chirurgiens sont quand même souvent aussi, quand ils sont très bons, c'est des as de la cicatrice, parce que beaucoup plus, sans doute, que les orthopédistes, parce que c'est plus important, quand même, sur le visage. Et vous voyez, ils sont très, très précis. Mais faire une cicatrice, c'est pas simple, parce qu'il faut anticiper, autant que possible, la manière dont les tissus vont évoluer. Vous voyez ? Et ça, il y a toujours... Donc, il rentre beaucoup d'instincts, beaucoup de pratiques. Ça, c'est... Et je pense que le travail de l'écriture a quelque chose de cet ordre-là aussi. C'est-à-dire, les critiques, et j'en suis un, vous expliquent comment c'est fait. Mais l'écrivain, ce que je suis aussi quand il écrit, la composition, ce vers quoi il va, il ne le sait qu'à moitié. Alors, s'il est très, très bon, il a un sens assez précis du combat qu'il mène pour arriver à là où il peut aller, de même que le chirurgien. Mais il y a toujours des choses qui lui échappent et il ne sait pas exactement non plus. Il est en partie dans un tunnel. Et Chloé était aussi dans ce tunnel, puisqu'il y a des choses qu'elle aurait voulu faire qu'elle n'a pas pu faire. Un os qu'elle aurait au départ voulu préserver qu'elle n'a pas pu préserver, puisque la balle avait brûlé l'os, littéralement. Donc, vous voyez, tout ça... évoluait dans moi. Alors, elle est un peu choquée par le mot, mais sauf que pour moi, il n'est pas négatif. Je parlais de bricolage. Voyez, c'est il y a un aspect bricolage, mais de même que chez tout écrivain, aussi puissant soit-il, il y a un aspect bricolage. On bricole, on assemble des éléments et on compose quelque chose qu'on essaie de faire la plus juste et la plus belle possible en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et on obtient un certain résultat qui n'est jamais tout à fait, d'ailleurs, celui qu'on voudrait obtenir. De même que très probablement, le résultat de ce que j'ai l'impression d'être Galatée, qu'elle serait Pygmalion, vous savez, l'histoire de la statue. Mais ce n'est pas exactement ce qu'elle voudrait obtenir. D'ailleurs, elle veut encore travailler sur ma lèvre. Enfin, vous voyez, il y a des tas de choses qu'elle veut faire encore. Par ailleurs, moi, j'ai travaillé aussi. C'est-à-dire que la kinésithérapie, c'est quand même, je dirais, dans un cas comme le mien, et je pense que ça vaut pour beaucoup de cas de patients, c'est au moins 40% du travail. Donc, il faut beaucoup, beaucoup travailler après. Et ça, il n'y a que le patient qui peut le faire.
Bon, il y aurait encore beaucoup de questions à vous poser, mais comme je vais laisser un peu la parole à la salle, parce qu'il y a des questions également qui vont être posées. Juste une dernière question. Vous parlez de travail, qui renvoie d'ailleurs au terme de souffrance, étymologiquement, mais est-ce que ce livre a été difficile à écrire, ou au moins à concevoir ?
Non, à concevoir, oui, à écrire, non. Sauf, non, à partir du moment où je m'y suis vraiment mis, mais il m'a fallu 2 ans pour commencer vraiment à m'y mettre, ça a été... Le chapitre qui a été le plus dur à écrire, je vous donnerai que cet exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas celui de l'attentat. C'est celui qui est l'avant-dernier chapitre, qui est le moment où justement il y a où je commençais à traîner à l'hôpital, où j'avais des problèmes, il y avait des choses qui marchaient pas, et où je suis entré en conflit avec ma chirurgienne. Et il m'a posé un problème, comme souvent, c'est-à-dire comment vous dire. Chaque moment, chaque chapitre de ce livre correspond à un moment. Et pour chaque moment, j'ai essayé vraiment d'aller le plus loin possible dans la recherche de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, à la fois physique, mental, avec toutes les réminiscences que j'avais, les rêves que j'avais et les scènes que je vivais. Et donc, le moment qui correspond à ce chapitre, qui est au printemps 2015, est un moment très déplaisant parce que ça ne marchait pas. Je fuyais littéralement. Et à ce moment-là, le chirurgien n'aime pas ça non plus. Comme je vous ai dit, elle n'aimait pas l'échec. Et donc, tout ce qui avait marché plus ou moins jusque-là, ça grippait. Et puis, ça faisait 3 mois que j'étais là. C'était beaucoup. Ça commençait à poser des problèmes avec le service parce que j'étais devenu une mascotte. Elle m'a expliqué encore l'autre jour, Chloé, qu'il y avait des infirmières qui pleuraient quand elles n'étaient plus dans le tour pour être dans ma chambre. Et ce n'est pas parce que j'étais un don Juan, ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je m'étais arrangé pour faire de ma chambre un lieu où elles auraient envie de venir. Par contraste avec les chambres de la plupart des autres.
C'est machiavélique.
Non, c'est pas machiavélique. Le patient, il veut qu'on s'occupe de lui parce qu'il veut s'en sortir. Donc, il est égoïste, hein, le patient, et je l'étais, vous voyez. Et donc, mais sauf que, en même temps, je m'étais attaché. Il y a des infirmières de ce service, des aides-soignants avec qui j'ai toujours des contacts. Je les vois plus, mais je leur donne des nouvelles, ils m'en demandent, il m'arrive d'aller boire un verre avec eux, vous voyez, enfin, ça peut m'arriver, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ça, c'est un moment où ça patinait, vous voyez, ça... Et donc, Le chapitre a été très dur à écrire parce que il fallait à la fois que je fasse. D'abord, c'était très déplaisant à retrouver cet état d'esprit que j'avais à ce moment-là, et aussi et donc ça me mettait mal. Par ailleurs, en tant qu'écrivain, il fallait que je fasse sentir ce que je suis en train de vous dire, et l'aspect presque infernal de la répétition qui s'était mise en place dans l'échec à ce moment-là. C'était un petit échec, mais c'était quand même un échec, et l'idée qu'il fallait que j'en sorte. Donc, et il ne fallait pas non plus que je devienne trop ennuyeux. Et donc, c'est par exemple un des rares chapitres qu'à la relecture, j'ai beaucoup coupé. Parce qu'il était trop long. Parce qu'il était contaminé par l'état d'esprit dans lequel j'étais. L'écriture était contaminée. Et donc, il a fallu procéder à une décontamination de ce chapitre. Donc, que j'ai fait moi-même. Donc, vous savez, dans ces cas-là, on laisse passer un peu de temps et il faut remonter à la surface et puis relire ça avec l'œil le plus froid possible. Et selon le fameux adage « Kill your darlings, tuez vos chéris », sabrer, comme on dit dans le métier, mais en tout cas couper toutes les redondances, il y a des redondances qui sont utiles et il y a des redondances qui ne sont pas utiles. Et donc, il faut avoir l'œil très clair à ce moment-là pour le faire. Voilà. Donc, c'est un exemple.
Bon, mais enfin, moi, je peux vous assurer que je ne sais pas si l'action de trancher dans le vif a été...
C'est un chapitre qui s'appelle « Le mal du patient ».
A été synonyme de douleur pour vous, mais c'est un livre tellement admirablement réussi qu'on ne peut qu'encourager ceux qui ne l'ont pas lu encore à le lire. Merci infiniment, Philippe Lançon. Je vous demande d'applaudir Philippe Lançon. Merci infiniment.
Merci à vous.